Milliards de voisins et voisines, cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, une enquête au cœur de l'intimité des couples. La vague MeToo de libération de la parole des femmes s'est-elle brisée au bord du lit conjugal? Pour y répondre, nous donnons la parole à Jean-Claude Kaufmann. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous venez régulièrement dans notre émission au fil de vos ouvrages. Vous êtes spécialiste du couple. Et votre dernier livre, Pas envie ce soir, le consentement dans le couple, ça pourrait être finalement le titre d'une chanson interprétée par une fille à la moue boudeuse, pas envie ce soir, j'ai mal à la tête. Et derrière cette ritournelle un peu de théâtre de boulevard, il y a une réalité sidérante, mal couverte par les statistiques et encore moins par la loi sur le viol conjugal, sur le viol tout court. Des petits arrangements du quotidien à l'agression sexuelle, vous avez enquêter sur l'un des sujets les plus tabous de nos sociétés, la sexualité non consentie dans le couple. Alors pourquoi accepter de satisfaire son partenaire quand le désir n'est plus là? Comment dire « pas ce soir » quand on est marié ou en couple? Pourquoi l'autre ne veut rien savoir, rien comprendre? Pour ce voyage en zone grise, comme vous dites dans votre livre, Jean-Claude Kaufmann, les voisines et les voisins, évidemment, vous avez la parole, vous pouvez nous appeler. Vos témoignages sont anonymes et gratuits. Notre compte WhatsApp, notre téléphone WhatsApp, c'est le 33 7 64 45 51 41. 33 7 64 45 51 41. Vous avez la parole où que vous soyez dans le monde et que vous soyez une femme ou un homme. Nous sommes aussi en ligne avec Véronique Cohn. Bonjour Véronique Cohn.
Oui, bonjour.
Vous êtes psychologue et vous avez publié « Quel amoureux êtes-vous » aux éditions Tchou. Et bien sûr, nous attendons vos témoignages, vos messages écrits également. Et on vous donne la parole.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine, 7 milliards de voisins.
Oui, on ne sait pas toujours ce qui se passe dans les chambres conjugales. Un message de Jocelyne à Brazzaville au Congo. Les rapports sexuels sont un devoir conjugal. Quand deux êtres s'aiment et s'unissent, le corps de l'un devient la propriété de l'autre. Que tu aies envie ou pas, le devoir de l'un ou de l'autre est de satisfaire son ou sa partenaire sans aucune condition. Oui, c'est plus si simple, hein, Jean-Claude Kaufmann.
Oui, bah c'était la règle, c'était le contrat, ça continue à être un petit peu. On s'engage et dans le couple, ça nécessite un certain nombre de compromis. Il y a plein de petites choses qui déplaisent chez le partenaire, qui agacent, donc il faut faire des efforts, se forcer. C'est à la base, on dit que l'amour est aveugle. Hein. L'amour, il est aveugle sur les petits détails du quotidien, le fait qu'il faille se forcer, faire des petits efforts. Mais de plus en plus aujourd'hui, on veut que cet engagement conjugal ne zappe pas le bien-être personnel, qu'on puisse associer les deux, exprimer le bien-être personnel, ses désirs, ses souhaits, tout en étant en couple, et notamment du point de vue des femmes, ne plus supporter tout et exprimer. Et quand on n'a pas envie, qu'est-ce que ça veut dire se forcer beaucoup? On peut rentrer dans une catégorie qu'on peut appeler le viol domestique. Donc il faut comprendre ce nouveau langage qui est dans la vague MeToo, notamment qui dit, il y a ce mot d'ordre, quand c'est non, c'est non. Ouais. Quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Donc là, il va falloir accorder les deux choses.
C'est exactement ce que nous dit Thierno, étudiant au Sénégal. Je pense que faire l'amour sans consensus de deux parties, c'est écrire une constitution sans un peuple. C'est joli.
Oui, ben là, je ne sais pas s'il a préparé sa phrase. En tout cas, on prend, c'est très très joli.
Je vous redonne notre numéro de WhatsApp, 33 7 64 45 51 41. Écoutez le témoignage de cette voisine au Cameroun qui a posté ce message audio.
Bonjour, Safia du Cameroun. En Afrique, on ne demande pas l'avis des femmes sur la question du rapport sexuel. On nous l'impose. Que ça nous plaise ou non, même si on n'a pas de plaisir, on doit faire semblant. Je pense que c'est un poids de la tradition et de la religion. C'est aussi de l'éducation que l'on reçoit à la maison. Donc, on doit accepter et faire avec. Il y a plusieurs femmes qui se font littéralement violer par leur mari la nuit de leurs noces. Parce que la femme refuse le rapport pour la première fois, parce que ce n'est pas chose facile. Mais le mari, lui, refuse d'attendre plus longtemps. Donc, il la viole littéralement. Ici, parfois, quand on refuse l'acte sexuel, ça peut être la cause d'un divorce. Retourner dans la famille en disant qu'elle a été chassée de son foyer parce qu'elle a refusé l'acte sexuel, c'est une honte pour elle et pour sa propre famille. Donc, elle est obligée d'accepter sans rien dire. J'en ai fait l'expérience.
Qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage ? Parce que c'est vrai qu'en Occident, là, on a une voisine qui est sur le continent africain, en Occident, Jean-Claude Kaufmann, on a les médias relaient des témoignages de femmes qui ont des sexualités épanouies, libres, avec des hommes respectueux de leur plaisir, et surtout des femmes qui ont les mêmes appétits sexuels aussi que les hommes. Est-ce qu'il y a l'origine sociale, l'origine culturelle, religieuse, qui entre en ligne de compte dans votre enquête ?
Alors en Occident, il y avait le même cadre de figure dans la tradition. C'était le devoir conjugal. La femme devait faire don de son corps dans le mariage pour la procréation, pour le plaisir sexuel de l'homme également. Officiellement, on a un peu tourné la page parce qu'on est rentré dans cette société où chacun exprime ses désirs.
Oui. A priori, en France, on n'est pas violé le soir de ses noces.
Non, mais effectivement, mais faut pas faire une opposition entre cette situation traditionnelle et la situation d'aujourd'hui. On réintériorise aujourd'hui le devoir conjugal. La femme se dit qu'elle a pas trop envie, mais que si elle le refuse, si elle se refuse, ça risque d'avoir des conséquences sur le couple. Le couple risque de se briser, son mari, son partenaire risque d'aller voir ailleurs.
Mais vous dites dans votre livre que quand vous avez commencé votre enquête, vous êtes quasiment tombé de l'armoire
avec tous les témoignages que vous avez reçus. Je dis, on vit sur des fables. On vit sur des fables, la fable de la sexualité épanouie. Alors oui, la sexualité est beaucoup plus épanouie qu'il y a un siècle. On en parle beaucoup plus, enfin plus dans les médias que dans les couples eux-mêmes. Hein. C'est plus difficile dans le couple. Mais il y a un écart, il y a un abîme entre ce que l'on raconte de la sexualité et comment elle est vécue dans les couples aujourd'hui. D'abord, elle est vécue dans le silence. On en parle très très peu. On parle encore moins du désir de l'un et du désir de l'autre, surtout quand le désir s'éteint un peu. Il n'y a rien de plus tabou aujourd'hui que cette disparition du désir.
Véronique Cohn, on en parle quand on vient voir une psychologue, une psychothérapeute.
Oui, oui, on nous parle souvent de ces problématiques d'usure du désir ou de non-consentement, c'est-à-dire ça peut être une femme ou un homme, hein, parce que vous parlez beaucoup des femmes qui se donnent à l'homme alors qu'elles n'en ont pas le souhait. Mais j'entends aussi beaucoup du côté des femmes qui demandent des rapports sexuels, qui ont des besoins et des désirs, et que l'homme ne répond pas en face.
En tout cas, qui se plaignent d'une érosion, de ne pas être assez désiré.
Ben complètement.
Ouais. Ouais. Et ça, c'est vrai, Jean-Claude Kaufmann, que vous semblez dire dans votre enquête que non, finalement, c'est quand même beaucoup plus des femmes qui se plaignent des assauts de leurs partenaires.
Non, Véronique Cohn a raison. Hein, c'est une divergence de désir entre deux personnes, qu'ils soient hommes ou femmes. Alors, est-ce que c'est plus souvent les hommes ou les femmes ? Donc, moi, par ma méthodologie, j'ai un petit peu de mal à chiffrer, mais quand même, j'arrive à la conclusion que dans 90% des cas, ce sont les femmes qui ont cette baisse du désir, surtout lorsqu'on parle de personnes qui vivent ensemble depuis un certain temps. Hein, pas au début de la rencontre, hein, pas du tout, mais au bout d'un certain temps. Par contre, c'est vrai, ces femmes qui sont en attente d'être désirées, de sentir qu'elles suscitent le désir, c'est particulièrement inacceptable pour elles de constater que cet homme, alors qu'elles ont dans l'idée que les autres hommes, c'est plutôt le contraire, et le leur, non. Alors pourquoi ? Alors toujours derrière, ça pose des questions sur soi. On se demande si c'est pas de sa faute, si on n'est pas coupable. Mais du coup, il y a une demande très forte, mais très majoritairement, c'est quand même une situation. Il y a une trajectoire du désir, si je puis parler ainsi, qui est plutôt rectiligne du côté des hommes, c'est-à-dire le désir reste plutôt là toujours, que le couple soit très amoureux, plus plan-plan.
Vous faites même allusion à un désir très mécanique chez les hommes.
Oui, assez mécanique qui reste là, alors qu'il y a une variation qui est très claire. Ça, c'est ce qui ressort principalement de mon enquête. Assez souvent, pas dans tous les cas, bien sûr, mais il peut exister une diminution, voire une chute du désir chez les femmes qui s'engagent dans la vie conjugale et familiale au bout d'un certain temps de vie à deux.
On peut vous reprocher d'ailleurs, finalement, de véhiculer des stéréotypes sur...
Alors, moi, j'essaie de lutter tout le temps contre les stéréotypes. C'est le béaba
Ce sont les témoignages qui vous ramènent à cette réalité-là.
Mais les témoignages, l'expression des témoignages, moi c'est un travail de vérité à partir des faits, à partir de ce que les gens me disent de leur situation.
Véronique Koehn, le désir sexuel et l'asymétrie des situations, est-ce que c'est un sujet qui revient chez les personnes qui vous consultent en tant que psychologue?
Oui, c'est très très fréquent. C'est très fréquent, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais c'est très souffrant d'ailleurs. On a cité le cas de femmes qui ne sentent pas, qui sont frustrées et qui ne se sentent pas désirées, et donc qui ont une estime de soi blessée, hein, du coup, parce qu'elles se sentent pas seulement à la hauteur, mais fragiles du côté de l'estime de soi. Ça fracture l'image de soi. Et quant aux femmes qui sont dans le côté inverse, là, qui se donnent alors qu'elles n'en ont pas envie, bah, du coup, de la même manière, hein, moi j'avais précisé que ça renvoie à une forme de dépendance aussi. Hein. C'est comme si je ne peux pas m'empêcher de me donner à l'homme, une dépendance plutôt affective qu'autre chose. Que c'est comme si, pour ne pas perdre le lien, s'il y a des peurs derrière, ben je suis prête à me sacrifier, quoi.
Peur de ne plus être aimée, peur d'être trompée, peur d'être abandonnée,
Peur d'être abandonnée, surtout, c'est peur de que le lien se coupe. Et que si ce lien se brise, ça renvoie aux attachements primaires, hein, à l'attachement mère ou père. Si mon premier attachement, qui est aujourd'hui un substitut d'un attachement primaire avec l'homme avec qui je suis, ben si le lien se rompt, à ce moment-là, que vais-je devenir? Et donc ce sont des peurs qui sont souvent imaginaires, hein, et pas du tout réalistes, mais beaucoup de femmes sont avec ça, et elles ne peuvent pas s'en empêcher.
On parle du consentement dans le couple chez 7 milliards de voisins. Je vous livre le message posté sur nos réseaux sociaux d'Espérant à Kolwezi en République démocratique du Congo. Voici ce qu'il nous dit. Au début, ma femme était accro au sexe. Et puis avec les enfants, le sexe est devenu un fardeau. Je suis obligée de la forcer car où pourrais-je aller pour me faire plaisir en dehors du corps de ma femme? Voilà la question qu'il pose. Si c'est ça le viol conjugal, alors oui, je le fais.
C'est pas très gai. Hein.
Non, mais c'est énorme. On est au cœur du sujet. Oui. Ce qui est déjà bien, c'est qu'il pose la question. Quoi. C'est le premier niveau extrêmement important, prendre conscience de ce qui est en train de se passer quand ça se passe mal.
Oui,
comme
c'est
ça,
ma femme,
le dire. Alors, ça ne veut pas dire que la solution va être simple, mais commencer à l'exprimer. Des cas comme celui-ci, alors surtout avec l'arrivée des enfants, hein, mais ça a souvent commencé avant l'arrivée des enfants. Hein. L'arrivée des enfants, on passe un cap encore plus fort. Mais la première étape importante, en parler, le dire et essayer de trouver
une solution. C'est ce qu'on fait dans cette émission. Justement, je vous propose d'écouter le témoignage de Nolita. Elle a 30 ans, elle vit à Ouagadougou au Burkina Faso. Nolita, c'est un pseudonyme, hein, parce qu'elle préfère témoigner évidemment anonymement. Charlie Dupiot l'a jointe sur Skype. Elle est en couple depuis 8 ans, mariée depuis 1 an et demi. Alors, comment voit-elle les relations sexuelles dans son couple? Écoutez sa réponse.
J'ai pas le droit de refuser parce que je suis mariée. Comme chez nous, on dit, l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Et s'il veut des rapports, surtout, ne ferme pas le robinet. Sinon, il ira voir ailleurs.
Et qui vous a dit ça, par exemple?
Les tantes, en fait. Aussi bien du côté paternel que du côté maternel. Avant le mariage, elles sont là, puisqu'on fait le tour chez les tantes, les oncles. C'était avant le mariage.
En quoi le fait de vous marier avec votre compagnon a pu changer les choses du point de vue justement de cette idée de consentement et de devoir conjugal?
On vit sous le même toit, c'est clairement pas la même chose que quand on se voit peut-être 2 fois par semaine. On entretenait des relations sexuelles bien avant le mariage. Et je pouvais me défiler avant qu'on ne soit mariés. Je pouvais dire oui, tu m'as pas passé la bague au doigt, c'est C'est peut-être ça même qui est le grand piège, en fait. Parce que dès qu'il a passé la bague au doigt, c'est comme si on légitimait maintenant. C'est comme ça. Si je suis mariée, je dois m'attendre à ça. C'est pas comme si on était toujours copain, copine, machin.
Est-ce que vous avez déjà vécu des rapports sans en avoir vraiment envie?
Oui. Ce qui m'énerve un peu, c'est qu'il sorte, il aille causer avec ses amis. Et lui, c'est quand il rentre et que moi, je suis endormie, qu'il veut avoir des rapports. Je dis, mais non, ça ne marche pas comme ça. Toi, tu faisais quoi? Comment je t'ai réveillée? Où tu étais? Il a fait ça certaines fois. J'ai dit non. Ce que je fais comme si je ne l'entends pas arriver. Mais il arrive, il voit que je suis couchée, j'ai les yeux fermés. Et puis, il vient, il me réveille. Chou! N'importe quoi. La dernière fois où ça m'a marqué, c'est quand j'ai fini par dire oui, parce qu'il s'était plaint que j'avais déjà dit non trop de fois. Ce soir-là, je n'ai pas manifesté. Je n'ai rien dit qui pouvait laisser penser que ce serait un non. J'étais juste fatiguée de le repousser une énième fois. Donc, je me suis juste laissée faire. En fait, qu'est-ce que j'ai fait même? Peut-être que j'ai fait quelque chose qui aurait dû laisser penser que c'était un non. Parce que je n'ai pas réagi. Je faisais le minimum possible. Sur le champ, et quelques heures après, j'étais pas bien dans ma peau. C'est-à-dire que je me sentais trahie. Trahie du genre, il m'a forcé la main alors qu'il aurait pas dû. Quand on aime quelqu'un, on force pas la main. Le pire, c'est que je lui ai pas montré ça, je lui ai pas fait sentir ça. Lui, c'était OK, et après, je lui ai pas montré mes larmes. J'ai pas coulé des larmes devant lui, mais j'ai pris une douche. Après, j'ai pleuré en silence. Il l'a jamais su. Parce que s'il le sait, ce sera d'autres problèmes. Il va dire, dans ces conditions, je ne vais plus te toucher parce que tu vas encore m'accuser de faire ci, tu vas m'accuser de viol. Je n'ai jamais osé prononcer ce mot-là devant lui parce que sinon, c'est la catastrophe. Mais ce jour-là, vraiment, j'ai coulé des larmes silencieuses.
À quel moment vous avez mis le mot viol là-dessus?
C'était dans ma tête pendant les rapports. Et quand je me suis couchée en train de penser et de pleurer, je m'étais dit... Je viens de me faire violer, mais c'était la seule phrase qui était dans ma tête. Après, je me suis posé d'autres questions du genre, est-ce que c'était vraiment un viol? Mais c'est arrivé une fois et j'espère que ça ne va pas se répéter parce que je ne sais vraiment pas, j'imaginais pas du tout que ça allait m'arriver, ce genre de choses-là. Parce que pour moi, si je veux dire non, j'ai le droit de dire non. Mais finalement, je ne sais pas pourquoi j'y cédais. Je me suis dit, il y avait peut-être trop de pression psychologique en amont. En disant « Oui, tu passes ton temps à me repousser alors qu'on est mariés maintenant. Tu n'as jamais envie de rien sur ce plan-là. » À force de penser à tout ça, j'ai fini par céder. Ça fait que parfois, pour éviter tout ça, je préfère boire, je ne sais pas, 2-3 verres de martini quand je pense que monsieur va rappliquer. Et puis là, ça me permet de faire passer la pilule. Parfois, j'ai envie, mais c'est pas aussi fréquent que lui.
Et du coup, est-ce que vous en avez parlé depuis à des amis, à la famille, à quelqu'un?
Non, j'en ai parlé à personne, sauf à vous là maintenant. Mais ce soir, par exemple, je discutais avec une collègue, je lui disais, c'est bête, hein, je lui disais que j'allais faire une interview avec une journaliste et elle me dit, ah non, tu n'as pas été violée, si tu as laissé faire ce que tu voulais et ce n'est pas un viol. Elle a une manière autre, différente de voir les choses. Elle ne comprend pas que je me suis laissée faire, mais ça ne voulait pas dire que j'avais envie. Quand est-ce qu'on peut parler de consentement? Quand est-ce qu'on ne peut pas parler de consentement? C'est là la nuance. Est-ce qu'une femme mariée a le droit de dire non? Qu'est-ce qu'on met dans le devoir conjugal? Pour elle, s'il y a eu rapport et que j'ai une bouche pour dire non et que cette bouche-là, je ne l'ai pas utilisée, c'est que j'étais consentante.
Alors, si on n'a pas utilisé sa bouche pour dire non, est-ce qu'on est consentante?
Oui, alors,
Jean-Claude Kaufmann.
Le témoignage est extrêmement, extrêmement riche. Elle dit, là, j'étais face aux assauts, j'étais trop fatigué, épuisé. J'ai fini par céder, mais je n'ai pas réagi. J'ai fait la morte et il a dû comprendre. Et souvent, non, beaucoup d'hommes ne comprennent pas ce message de la passivité. Elle a cru en vous. Envoyer un message et puis elle l'a envoyé, elle l'a très bien expliqué à d'autres moments. Donc là, son partenaire, c'est évident, aurait dû comprendre. Arrive un moment, arrive un moment, il ne faut pas parler de viol trop rapidement, parce qu'il y a des hommes qui ne comprennent pas du tout, face à une passivité, par exemple, de leur partenaire, que c'est un message de refus. Donc là, on est dans une situation où il faut leur faire comprendre, il faut les éduquer. Mais quand ça se répète, comme dans la situation que nous a expliqué Nolita, là, il faut employer, on passe un cap, il faut employer ce mot. C'était évident, son partenaire devait le comprendre, qu'elle n'était pas consentante, donc elle a été forcée. Donc, ça s'appelle un viol, effectivement. C'est très difficile, et son amie à qui elle en a parlé ne comprend pas ce terme. Elle dit non, c'est dans le couple, donc ce n'est pas un viol. Le viol, ce n'est pas que dans les parkings. Hein, ça, il faut le comprendre. C'est pas avec un couteau sous la gorge dans un parking. C'est quand on force aussi sa partenaire délibérément dans le couple. Ça, c'est la nouvelle époque dans laquelle nous entrons aujourd'hui. Ça révolutionne la vie de couple.
Encore faut-il prouver la notion de contrainte, de menace. En tout cas, pour ce qui est du droit en France, le viol est un crime en France et le viol conjugal est reconnu par la loi, mais plus difficile à qualifier, plus difficile à prouver, puisque la présomption du consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire.
Il est très difficile à prouver dans le couple. C'est très difficile de porter plainte pour viol dans l'espace public, mais encore plus dans le couple. Donc le droit...
Et pour le cas de Nolita, là, il y a une forme de menace, mais alors c'est une menace renversée. Ah bah si c'est ça, je ne vais plus te toucher.
Oui.
C'est-à-dire,
oui.
Vous entendu, ça sera l'indifférence, le désamour, le début de la fin,
oui.
Non.
Oui, moi, ce que je pense, c'est que quand la femme a le cœur brisé parce qu'elle se sent violée comme ça, elle se sent forcée, violée, puis pas du tout entendue, écoutée, respectée, ça va générer un éloignement du lien terrible. D'abord, elle lui en veut parce qu'elle se sent pas aimée inconditionnellement, mais pas aimée du tout. Et donc, il va y avoir de fortes chances qu'elle va lui faire payer, mais d'une autre manière, par un autre type de pouvoir, quoi, de rapport de force qui va s'inverser, qui est à quel moment je vais prendre le pouvoir. Alors, ça va être soit en tant que mère, soit je te le ferai payer, quoi, d'une manière ou d'une autre. Mais en souterrain. Elle n'a pas les mêmes moyens de faire payer que l'homme, quoi.
Vous nous appelez sur notre compte WhatsApp les voisines et les voisins, 33 7 64 45 51 41. On parle du consentement dans le couple. On avait cette voisine qui évoquait les attaques nocturnes. Vous en citez une, de nombreuses d'ailleurs dans votre livre, Jean-Claude Kaufmann. Le pire, c'est quand il commence à me toucher la nuit, quand je dors. Il en plaisante le matin en disant qu'il m'a attaqué. Et je fais semblant de trouver ça OK ou pas grave. Je me sens violée quand il fait ça, mais c'est mon mari. Alors bon, il a le droit, je suppose. Nous sommes en ligne avec Cynthia, qui a 32 ans, qui est à Libreville, au Gabon. Bonjour Cynthia.
Bonjour les voisins, bonjour les petites en place.
Vous avez la parole Cynthia.
Alors tout de suite, je veux vous faire partager mon expérience. Je vis avec un homme qui a 5 ans.
Okay. Oui.
D'accord. Alors, ce dernier, je voudrais que nous fassions des rapports sexuels, que nous ayons des rapports sexuels du dimanche, du lundi et du dimanche. Chose que moi, je trouve anormale déjà avec toutes les énergies que j'ai en journée, le boulot et l'autre. Et en soirée, il est vrai que ça se passe toujours avant le coucher. Je que moi, je dis non, mon cher. À la limite, c'est mieux qu'on le fasse au petit matin. Parce que avant le coucher, jusqu'à venir épuiser avec toutes les tâches à faire.
Ouais. On vous entend assez mal, Cynthia, mais si je comprends bien, il y a un décalage de sexualité, en tout cas, entre les attentes de votre conjoint et vous-même. Il voudrait faire l'amour tous les jours, et en plus, pas au moment où vous le souhaiteriez, puisque vous préféreriez que ça soit le matin. C'est bien ça, hein, Cynthia?
Je ne comprends pas ce que vous dites. Comment arriver, quel mot utiliser pour arriver à dire non pour le moment?
Oui, non quand ce n'est pas le bon moment pour vous. Votre question, elle est très simple. Hein. La réponse est sûrement plus compliquée. Véronique Cohn, est-ce que vous avez entendu la question de Cynthia?
Oui, je pense que dans notre société occidentale, c'est un peu plus facile, hein, en tout cas chez nous. Pour les femmes, elles ont plus le droit à la réciprocité, à la parole libre. Je ne suis pas sûre que là-bas, ce soit évident de dire un vrai non fermement. C'est-à-dire c'est une compétence à mettre ses limites. Mais pour mettre ses limites de manière ferme et maintenue, ça veut dire qu'on n'a pas peur des représailles. Donc, dans un couple où on se dit, si jamais je dis un non ferme et que l'homme me répudie, ou que je me retrouve seule à la rue avec mes enfants, je pense qu'il y a des... Voilà, ça peut créer des terreurs et...
Néanmoins, Jean-Claude Kaufmann, dans votre livre, vous ne faites que citer des témoignages de femmes qui subissent une pression.
Oui, non.
Et c'est en France.
Qui est en France aujourd'hui, qui est très fréquente. C'est-à-dire, dans beaucoup de couples, il y a une routine sexuelle qui s'installe, une habitude. C'est à tel moment, et puis de telle manière, on a mis en place une chorégraphie. Je dirais, assez souvent, l'homme, le mari, le partenaire, prend ses aises par rapport à ça. Il a besoin d'exprimer son désir et d'exprimer son plaisir. Et ça peut ne pas correspondre aux souhaits de la partenaire. C'est pas cette régularité. Des fois, elle a envie, mais des fois, beaucoup moins. Et puis, parfois, c'est pas le bon moment. Et c'est un moment où elle n'a pas envie. Et donc, elle va se sentir forcée. En se forçant, elle va encore moins avoir envie la fois suivante.
Et puis, il y a des femmes qui sont nombreuses et pour cause. On sait que les statistiques par rapport au nombre de plaintes sont bien supérieures. Des femmes comme Mia, que vous citez dans votre livre, qui dit « J'ai découvert très tardivement la notion de consentement parce que j'avais subi des violences sexuelles quand j'étais jeune. Donc cette notion n'a pas pu se construire et pendant des années, ma vie de femme a été ponctuée par des absences de consentement. Je disais oui parce que je ne savais pas exprimer
de
non. »
Et puis, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore dit depuis le début de l'émission, c'est beaucoup de femmes qui sentent un petit peu ce désir diminuer, vivent ça très mal. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Et c'est de ma faute. Les autres femmes
donc,
doivent
avoir... Forcer.
Donc, il faut encore plus se forcer, et se forcer dans le silence, sans rien dire.
Il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas encore dit dans l'émission sur ce sujet très complexe du consentement dans le couple. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41, il n'y a pas que du viol conjugal, il y a de la zone grise, comme vous la décrivez si bien aussi, Jean-Claude Kaufmann. On y revient. Vous avez tous la parole, les voisines, les voisins, juste après, Angèle.
Ma journée est passée à une de ces vitesses. Pas mis le nez dehors et pas lavé. À ça, je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Et ça n'arrive que moi. Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux peut-être, mais au plus je ris. Au plus je te donne tort de pas vouloir m'aimer. C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais. C'est oui ou bien c'est non. Demain tu me feras. J'étais celle de tes rêves, celle qui comble tes nuits et la mariée. Faut dire que ce fut bref, ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. Genre romantisme express, t'as pris le temps de venir mais pas de rester. Tu m'embrasses puis tu me laisses. Regarde comment je souris, regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux peut-être, mais au plus je ris.
Angèle, oui ou non, vous écoutez 7 milliards de voisins. Sur RFI, on est en direct. Le consentement sexuel dans le couple. On en discute avec vous, Jean-Claude Kaufmann, sociologue. Vous publiez Pas envie ce soir. Le consentement dans le couple aux éditions Les Liens qui libèrent. Véronique Cohn, vous êtes psychologue. Vous êtes également en ligne avec nous et vous nous appelez les voisines, les voisins, 33 7 64 45 51 41. On donne la parole à Angélique qui est à Yaoundé, au Cameroun. Bonjour Angélique.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les voisins du monde entier.
Soyez la bienvenue. Vous avez 23 ans, Angélique. Votre histoire, votre témoignage est intéressant parce que vous avez connu deux situations, deux histoires, deux partenaires avec une situation sexuelle très différente.
Oui, c'est exactement ça. Alors, l'année dernière, je vivais avec mon petit copain.
Ouais.
Et c'était exactement le genre de garçon à qui on ne dit jamais non. On ne dit jamais non, même si c'est à minuit, même si c'est à midi, même si c'est dans la voiture ou au jardin. On ne dit jamais non. Alors,
mais comment il faisait pour vous contraindre?
Alors, il me forçait, il me prenait par force. Je quittais le lit pour aller peut-être dans une autre pièce. Il m'arrêtait par force, il me prenait par le cou. Il me disait, tu es à moi, tu m'appartiens, je n'ai nulle part où aller, alors je fais ce que je veux, ainsi de suite. Parfois, je pleurais. À un moment, on avait des rapports sexuels. C'était vraiment comme du viol parce que je pleurais. Et lui, il se disait que c'était peut-être parce que c'était trop bon, genre l'envie était, c'était l'extase. Alors, c'était pas ça. Je me suis dit que souvent, quand tu as des rapports sexuels avec un garçon et que tu ne gémis pas, il va s'arrêter. Ce n'était pas le cas avec lui. Tu gémis, tu ne gémis pas, ce n'est pas son problème. Lui, tout ce qu'il veut, c'est avoir des rapports avec toi, c'est te prendre à toutes les positions qui puissent exister. Mmh. C'était vraiment un cauchemar avec lui, avec ce garçon-là, franchement.
Qu'est-ce que vous avez fait pour sortir de cette situation, Angélique ?
Alors, pour sortir de cette situation, ça n'a pas été facile parce que j'avais une situation financière très, très compliquée. C'est pour ça que déjà je vivais avec lui. Donc il a fallu que je trouve des moyens financiers pour chercher mon propre appartement à moi. Mmh. C'est ce que j'ai fait quelques temps après et grâce à Dieu, vraiment, c'était un terrible cauchemar que j'ai vécu avec ce garçon. Et ça a eu un impact physique et même psychologique. Parfois je me réveillais la nuit, je pensais à ça et puis je pleurais. C'était vraiment du jeu. Quand je vivais avec lui, je m'enfermais dans le placard. Je restais là-bas dedans toute la nuit. Il était comme s'il était schizophrène, il faisait des trucs comme s'il oublie ce qu'il fait, comme si ce n'était pas lui qui l'a fait, et puis il te demande pardon et il refait la même bêtise après.
Vous avez songé à porter plainte par la suite ?
Non, je n'ai pas songé à porter plainte parce que je ne vais pas critiquer la police de mon pays, mais porter plainte, ça ne vaut pas vraiment la peine en fait. Donc tu vis ton cauchemar tout seul, tu le gères comme tu peux, si tu sors en vie, Dieu est grand, si tu ne sors pas en vie, tant pis pour toi.
Aujourd'hui, vous avez un autre conjoint, un autre petit ami, ça se passe comment ?
Oui, exactement. Avec mon petit ami, déjà, lorsque j'ai rompu avec mon ex, j'ai pris beaucoup de temps pour guérir cette plaie interne en moi. Alors, je lui ai dit, tu es là dans ma vie actuellement, mais écoute, il faut d'abord que je te dise que je ne suis pas prête du tout à t'accueillir. Alors, si tu es là, tu vas me comprendre parce qu'il faut que je me soigne d'abord de façon psychologique. Et il a dit, oui, il n'y a pas de problème, je vais attendre. Tu peux m'en parler. Alors c'était un peu ça. Je lui parlais de mes problèmes, il essayait de m'écouter et il m'a dit qu'il n'est pas comme ça, il est différent des autres. Et puis avec le temps, je me rends compte que c'est une personne différente, surtout de mon ex, parce que lui, franchement, c'était très très horrible.
Et comment ça se passe maintenant, votre sexualité avec ce nouveau fiancé ?
Actuellement, c'est vraiment le mot consentement porte tout son sens. Lorsque je dis non, j'ai mal à la tête, il dit ok, il n'y a pas de problème, c'est quand tu veux. Quand je dis maintenant j'en ai envie, il dit ok, c'est quand tu veux, on fait comme tu veux, quand tu veux. Franchement, avec lui, le mot consentement porte tout son sens.
Et de son côté aussi, ça peut lui arriver de lui dire qu'il vous dise bah non, moi j'ai pas envie.
Ce sont les hommes. L'homme, il a toujours envie, sauf s'il est fatigué, franchement.
C'est vous qui le dites, Angélique, je ne sais pas.
Parce que c'est ça, l'homme, il a toujours envie, même si c'est dans la voiture, même si c'est dans le... Je ne sais pas trop. Il suffit juste que tu lui présentes le truc et puis bon, il dit « Ok, il n'y a pas de problème. »
Mais vous vous sentez respectée en tant que femme aujourd'hui dans votre désir ou non-désir en fonction des jours ?
Oui, c'est exactement ça. J'ai retrouvé l'envie de vivre une autre relation. J'ai retrouvé l'envie de connaître de nouvelles personnes et de nouvelles aventures, ainsi de suite.
Merci de nous avoir appelé, en tout cas, Angélique. Soyez heureuse à Yaoundé avec votre nouveau petit ami. On accueille Eva, qui est à Dakar, qui nous appelle du Sénégal.
Bonjour à tous les auditeurs de 7 milliards de voisins. Voilà, en fait, moi, je me rappelle, à l'époque, j'avais que 26 ans. J'avais parvenu à éradiquer un lourd fardeau que subissait ma cousine. Parce qu'elle était mariée avec un gars vraiment ignoble. Parce qu'à chaque fois qu'il entretenait des relations sexuelles avec elle, il l'a forcé à le faire. Il l'étendrait. Et lorsque ma cousine là me l'a dit, j'ai dit que celui-là, il faut que je le dénonce. Et j'avais parvenu à réunir toute la famille. Et nous sommes partis voir la famille du mari de ma cousine et on a réglé cela. Voilà.
C'est-à-dire
C'est-à-dire...
Comment vous avez réglé ça ? Il y a eu une plainte auprès de la police, de la justice, ou c'était finalement un compromis social ?
Voilà, c'était un compromis social. Et après, le gars, là, depuis lors, il n'a rien fait vraiment de mal à ma cousine.
La relation a cessé, donc ?
Après, je crois, 6 mois, la relation il n'y a plus de relation. Voilà.
Merci Eva de nous avoir appelé. On a entendu ces deux témoignages, le témoignage d'Angélique aussi, qui finalement, on voit bien que l'issue là, c'est la... Quand ça se passe à ce point-là, c'est la fin du couple, non, Jean-Claude Kaufmann?
Oui, il faut arriver à en parler, à sortir. Nolita, tout à l'heure, nous a dit qu'elle avait la pression des tantes aussi, qui l'obligeait à se forcer. Et là, Eva nous a raconté un petit peu le contraire, c'est-à-dire qu'en mobilisant la famille a fini par dire « Mais non, ça va pas, c'est trop loin, c'est de la violence, c'est du viol, ça ne peut pas fonctionner comme ça aujourd'hui. » Alors des fois la police c'est difficile, hein, c'est pas toujours simple, faut commencer à en parler à l'extérieur, hein, ne pas garder ça pour soi, c'est extrêmement important, ou trouver la solution comme Angélique là, qui a réussi à partir. Alors, c'est pas toujours simple, elle a expliqué, elle avait des problèmes financiers, elle était un peu piégée d'une certaine manière dans son couple, mais son témoignage était incroyablement riche, elle a réussi à s'en sortir et on sent son bonheur aujourd'hui, et d'avoir réussi et d'avoir découvert que ça pouvait fonctionner autrement dans les couples.
Alors évidemment, ces récits donnent une image des hommes. Je pense qu'il y en a qui nous écoutent et qui sont nombreux, qui se disent « mais quelle image ça donne de nous, les hommes ?» Bien que Angélique ait retrouvé aujourd'hui un partenaire qui est extrêmement respectueux et qui est parfaitement avec qui elle est heureuse. Mais quand elle décrit son premier conjoint qui dit « mais en fait, tes larmes, ce sont des larmes de plaisir », on retombe un peu dans ce fantasme de la violence comme un objet sexuel qui est largement décrit aussi dans votre livre, Jean-Claude Kaufmann.
Oui, je parle dans mon livre d'une ligne rouge. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une ligne rouge où l'homme n'a que faire de son partenaire, il n'y a que son plaisir qui compte, il est prêt à forcer de toutes les manières sa partenaire. Donc ça s'appelle du viol et il faut le dénoncer, éventuellement en portant plainte à la police. Mais l'immense majorité des situations difficiles aujourd'hui de sexualité dans les couples, c'est en deçà de cette ligne rouge. C'est de l'incompréhension, c'est des vieilles habitudes qui dure, c'est le mariage, donc la femme doit satisfaire le plaisir de l'homme. Donc ça, il faut que ça change par l'éducation, par la parole. Il y a beaucoup d'hommes qui, s'ils comprenaient mieux qu'ils font souffrir, qu'ils ne sont pas respectueux pour leur femme, pourraient progresser peut-être avec le soutien de la famille derrière, etc.
Encore faut-il avoir des solutions pour les hommes, et c'est ce qu'ils demandent aussi massivement, notamment quand ils s'adressent à la sexuologue Catherine Solano dans l'émission Priorité Santé. Je vous propose d'écouter le message d'un auditeur, d'un voisin qui nous a posté sur notre compte WhatsApp. Je vous rappelle le numéro, d'ailleurs c'est le 337 64 45 51 41. Écoutez le message de Steve.
Bonjour. La vie maritale pour moi ressemble plus à une traversée du désert au niveau sexuel. Au tout début, avant qu'on ne vive dans la même maison, c'était parfait. Quand nous avons emménagé, c'était parfait à nouveau. Et puis, le premier enfant est arrivé, puis le deuxième, et à partir de ce moment, tout s'est complètement arrêté. Elle n'a presque jamais envie. Sur 30 jours, elle a envie 2 jours et les 28 jours restants, il faut toujours que ce soit moi qui de faire le pas. Nous avons un agent de sécurité, une nounou, une dame de ménage. Les enfants, on s'en occupe tous les deux le soir. S'il s'agissait seulement de tâches ménagères, il n'y a pas de raison qu'elle soit plus fatiguée que moi. Depuis 10 ans que nous sommes ensemble, j'ai eu l'occasion de forcer la relation sexuelle à peu près 2 ou 3 fois. Il s'agissait surtout de fois où elle refusait alors qu'il n'y avait vraiment aucune raison et que ma frustration était grande. Donc j'ai eu l'occasion, mais j'ai vu effectivement que ça nous faisait du mal à tous les deux et que ça n'apportait rien de bon. Donc je vis ma frustration au quotidien, je lui ai fait part de la chose. J'ai posé même fois la question de savoir si c'était lié à moi. À chaque fois, elle me répond que ce n'est pas lié à moi, mais qu'il s'agit d'elle qui n'a plus de libido du tout. On aurait tendance à croire que c'est peut-être parce qu'elle voit ailleurs, mais non, pas du tout. Désormais, c'est moi qui demande et je reçois presque toujours un non d'abord, avant que finalement on le fasse. Ce qui fait qu'il y a des fois, elle en a bien envie, elle attend que je fasse le pas. Il y a des fois, elle est fatiguée et quand je demande, elle fait l'effort de participer. Et puis, là, le reste du temps, c'est OK, comme tu demandes, vas-y, sers-toi. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Donc oui, c'est triste en effet de voir que la personne qu'on aime, qui vit avec nous, ne partage pas le même désir sexuel.
Voilà, une vraie misère hein, vécue par les hommes, Jean-Claude Kaufmann.
Oui, oui, il y a une souffrance des deux côtés. Hein. Il y a un problème qui est difficile à résoudre. Il y a peu de communication là-dessus. Là, Steve explique que dans son couple, ils réussissent à en parler quand même. Mais il explique bien son incompréhension, sa souffrance. Des fois, elle lui dit de guerre lasse, bah, vas-y, serre-toi, je te donne mon corps, je ne vais pas réagir. Utilise-le comme un instrument pour ton plaisir.
Parce que pour ces hommes-là, la sexualité, c'est la première preuve d'amour.
Mais oui, ils ne comprennent pas. Et souvent, ces femmes disent « Mais j'aime mon partenaire, mais j'ai plus le désir à baisser. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais le désir à baisser. » Et les hommes, en face, ils ont beaucoup de mal à comprendre ça. Pour eux, c'est le signe que l'amour meurt un petit peu. Et donc, retrouver le désir un petit peu mutuel, ça serait le signe que le sentiment est toujours là. On a entendu dans la voix de Steve le désarroi et la souffrance. Alors, c'est une souffrance moins forte que celle des femmes, les femmes qui se font vraiment forcer, où lorsqu'il y a des viols, je crois que c'est Angélique qui avait parlé qu'il lui a fallu un temps pour reformer un couple, parce qu'elle avait été détruite par sa première relation. Donc là, c'est une souffrance qu'il ne faut pas mettre sur le même plan, qui est très forte. Mais pour certains hommes, ce n'est pas simple non plus.
Véronique Cohn, vous rencontrez ces hommes aussi qui disent ne pas comprendre. Parce qu'on peut aussi lire le message de Judith à Abidjan, et vous me direz ce que vous en pensez. La baisse de désir chez la femme, c'est parce que l'acte sexuel n'est accompli que pour le plaisir de l'homme. Quand la femme ne sera plus chosifiée, quand elle sera un sujet de droit, on en reparlera. C'est très stéréotypé, c'est pas si vrai que ça. On voit bien qu'il y a énormément d'hommes qui appellent, notamment dans l'émission avec Catherine Solano sur la sexualité, pour dire comment donner du plaisir sexuel à ma partenaire et pour qui c'est quelque chose de très important. Alors, comment se fait-il qu'on en soit encore là, Véronique Cohn ?
Alors, il se trouve que dans les stéréotypes, les hommes commencent à ouvrir leur cœur à partir de leur sexe. C'est-à-dire, si la femme accepte la relation sexuelle, ça va monter l'énergie dans le cœur et ça va ouvrir leur cœur. Et donc, à partir de là, ils sont aimants et donnants. Alors que très souvent, dans les stéréotypes féminins, on va dire l'inverse. On va dire que c'est la femme qui va d'abord avoir le sexe ouvert, si le cœur est ouvert. Mais si l'homme la force, si elle se sent prédatée, ou s'il y a des conflits conjugaux aussi, son cœur est fermé à l'homme. Et à ce moment-là, si son cœur est fermé, son sexe est fermé. Et donc, c'est assez complexe parce que l'homme a envie de bien faire très souvent, de satisfaire sa partenaire et de se faire aimer d'elle. Et il ne trouve pas la longueur d'onde, la clé. Parce que lui, très souvent, de manière traditionnel, il rentre dans la relation par le sexe, en fait. Et après, le cœur s'ouvre. Et donc, on est dans des différences du genre. Hein.
Si aujourd'hui, dans les sociétés occidentalisées, les femmes veulent montrer une image d'elles de femmes libérées. C'est le cas d'une femme qui témoigne dans votre livre, Jean-Claude Kaufmann, qui dit « Je me suis rendu compte que je m'astreignais à une sorte de devoir, pas nécessairement conjugal, mais par volonté d'être une femme libérée. » C'est finalement, là, c'est la pression, l'injonction à la sexualité épanouie, même si mécaniquement, ça ne marche pas forcément comme ça.
Alors, ça marche pas trop mal lors des premières rencontres aujourd'hui. Hein. La sexualité des femmes, historiquement, a été réprimée. Hein. On les a empêchées d'exprimer cette sexualité. Donc là, il y a une évolution positive. Et lors des premières rencontres aujourd'hui, le changement est tout à fait important. Les femmes ont de la libido. Hein. Il n'y a pas moins de libido chez les femmes que chez les hommes, mais elles ne s'expriment pas de la même manière. Et puis, elles varient au cours de la vie, notamment en lien avec l'engagement dans la vie conjugale. Mmh. Quand la conjugalité s'installe dans le long terme, il y a très souvent une baisse qui apparaît un petit peu comme mystérieuse de cette libido qui est très très mal vécue. Donc il faut que le couple trouve la manière de s'arranger par rapport à ça, et de trouver des petites... C'est pas si simple, mais pour trouver des manières...
On ne trouve pas avec la fin de l'histoire, la fin du couple.
Non, mais bien sûr. Mais à partir du moment où on en parle, si ce n'est pas une pénibilité absolue, des fois, c'est simplement pas trop envie. Donc, il faut se forcer un peu. Mais si on le dit, et si on le dit qu'on le fait par amour, ça change tout.
Vous défendez beaucoup, vous avez une vision quand même assez conservatrice, Jean-Claude Kaufmann, quelque part. C'est ce que je me demande toujours comment les féministes reçoivent ce livre-là. Depuis le temps que vous écoutez les femmes, vous êtes dédié à l'écoute des femmes, que ce soit sur les tâches ménagères, l'intimité des sacs à main, les femmes qui sont piégées dans leur couple, etc. Mais quand vous dites ça, vous êtes le défenseur du couple, le défenseur de l'amour quelque part. Elles vous disent quoi, les féministes ?
Alors, faut pas dire les féministes aujourd'hui. Il y a des courants féministes différents, et il y a un courant féministe que je dirais identitaire, qui a tendance à critiquer le patriarcat dans son ensemble, et une petite tendance, à mon avis, à mettre tous les hommes dans le même panier. Or, pour moi, c'est extrêmement important de faire la différence entre les hommes qui sont prêts à rentrer dans une attitude de viol conjugal, et là, il faut les dénoncer, porter plainte, etc. C'est extrêmement important. Et les hommes qui n'ont pas complètement compris qu'ils forçaient leur partenaire. Et là, c'est un travail d'éducation qu'il faut faire, parce que beaucoup de femmes, dans mon livre, témoignent. La peur la plus grande qu'elles ont, c'est que leur couple se brise. Elles n'ont pas envie de briser leur couple. Donc, elles veulent trouver une solution. Et cette solution, elle passe par le dialogue et l'éducation des hommes pour les faire progresser.
Et notamment aussi, peut-être, avec de jeunes générations. Merci en tout cas à tous les deux. Jean-Claude Kaufmann, Pas envie ce soir, Le consentement dans le couple, très éclairant. C'est publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci beaucoup à vous aussi, Véronique Cohn, d'avoir été en ligne avec nous. Vous êtes psychologue. On se quitte avec le trio sénégalais Safari. Faut pas forcer. Et ensuite, ce sera le journal sur RFI. Diffusion de notre émission sur les mathématiques. Aujourd'hui, pourquoi les élèves en France sont parmi les derniers en Europe en maths? Et on entendra aussi vos réactions d'enseignants et de parents dans votre pays. À demain.
7 milliards de voisins, c'est fini. Ondes de choc.